France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Dans les arènes Zibert, ce samedi dans Plan Large avec Paolo Carneiro et Albert Serra et aussi Mariana Brennand et encore Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est dans la péninsule ibérique que nous vous amenons aujourd'hui avec deux films qui, et on commence à en avoir l'habitude dans cette émission, brouillent encore un peu plus les frontières entre documentaire et fiction. Ils sont figurés des combats immémoriaux et captés ce qu'il y a de plus prosaïque et concret dans le monde pour toucher au transcendant et au mythe, le tout par des choix radicaux, mais n'est-ce pas le principe même du cinéma, de ce qu'on montre et ne montre pas, ce qu'on fait entrer dans le cadre et dans le champ, et ce qu'on laisse volontairement en dehors. Côté David contre Goliath, le cinéaste portugais Paulo Carneiro a accompagné la lutte d'un petit village du nord-est du Portugal, dans la région montagneuse et si cinématographiquement fructueuse du Trace au Montes, entre une entreprise britannique, Savannah, qui voulait et veut toujours y creuser la plus grande mine à ciel ouvert de lithium en Europe. La savane et la montagne, à Savania et à Montagna, c'est le titre original de Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective du nom du village où se déroule l'action de ce film qui, on le verra, est aussi ludique que combative. Son réalisateur Paulo Carneiro est en direct ce samedi dans Plan Large et on l'en remercie. Nous traverserons ensuite la frontière pour arpenter le sable de quelques-unes des arènes qui parsèment l'Espagne pour voir avec le catalan Albert Serra comment, pour son premier documentaire Tarnés de Soledad, il s'est approprié et a détourné le spectacle de la corrida pour remettre en scène la lutte antique entre l'homme et la bête, le torero et le taureau, et interrogé par là même des questions éthiques et théoriques qui traversent le cinéma depuis qu'on a commencé à réfléchir dessus. Nous l'entendrons tout à l'heure. Dans le journal du cinéma, nous resterons en terre latine avec la brésilienne Mariana Brennand qui, elle aussi, vient du documentaire et nous dira comment, avec son premier long métrage de fiction Manas, elle s'est efforcée de rendre cohérente sa mise en scène, sa pratique et son sujet. En fin d'émission, Charlotte Garçon explorera, elle, le sentiment incertain qu'on éprouve à voir et revoir les illusions perdues d'Ernst Lubitsch. Mais pour l'heure, à bord d'un véhicule tout-terrain, on descend une sinueuse route de montagne jusqu'à un village lusitanien qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, comme on va l'entendre chanter maintenant. C'est l'heure de se battre.
Levanta a cabeça, tira os olhos do chão. Se a vontade esmorece, sacode-a com abanão. Que agora a hora é de lutar. Que agora a hora é de lutar. Não fiques parado a fingir que não vês. Esta luta é de todos, não de dois ou três. E agora a hora é de lutar. E agora a hora é de lutar. Não estejas à espera que o façam por ti. Não se ganha a guerra sentado a ir. E agora a hora é de lutar. E agora a hora é de lutar. Estas águas claras, sossego e estar puro. Estas serras altas, este é o nosso mundo. E é por ele que vamos lutar. E é por ele que vamos lutar. Junta-te à luta, vamos vencer. Esta é a hora, não há tempo a perder. Junta-te à luta, vamos vencer. Esta é a hora, não há tempo a perder. Junta-te à luta, vamos vencer. Junta-te à luta, vamos vencer. Levanta a cabeça, tira os olhos do chão. Se a vontade esmorece, sacode com abanão. Que agora a hora é de lutar. Que agora a hora é de lutar. Não fiques parado a fingir que não vês. Esta luta é de todos.
Bonjour, Paulo Carneiro.
Bonjour.
C'est le début de votre film Kovács do Barroso, chronique d'une lutte collective qu'on vient d'entendre. Mais juste avant ce qu'on entend, il y a eu, et ça tombe bien pour notre émission, un plan large, très large. Un homme marche dans la rocaille avec son chien, des chevaux sont en liberté. Et déjà, on est dans le western. Est-ce qu'il s'agissait par là de montrer un homme qui s'inscrit dans un paysage, un territoire, et qui lui appartient complètement, Paolo Carneiro?
Bonjour. Oui, vraiment, je pense que cette idée de commencer le film avec la mélange nature, le chevaux et l'humain, c'était vraiment cette idée de... Parce que à la fin, je crois que tous mes films parlent de ça, des territoires, de comment on ressent le territoire et comment on le défendre. Et des fois, parce que je crois vraiment que le cinéma, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de l'auteur et aussi bien sûr des gens qui sont en train de faire le film, parce que là-bas on a fait un peu un film aussi collectif avec les habitants de Kovács do Barroso, et c'est vraiment essayer de trouver une vérité sur le territoire et comment on s'approche et on se développe dans le territoire d'une manière que autour du film, on comprend que ça devient aussi quelque chose qui vient du placement de la caméra et pas que du sujet.
Ah, il se trouve que vous saviez à peu près comment placer votre caméra, parce que ce territoire, vous l'aviez déjà filmé, enfin, pas très loin, à 10 minutes en voiture, dans un village qui était celui de votre grand-père. Ça s'appelle Bostofrio, c'était le nom de votre premier film, Bostofrio, où le ciel rejoint la terre. En quoi est-ce que ce nouveau film est riche déjà de ce premier geste de cinéma, Paolo Carneiro?
Bon, pour moi, chaque film, c'est un défi. Et j'ai dit tout le temps que cinéma, c'est vraiment placer la caméra et comment on regarde les autres et comment on les voit vraiment. Et pour moi, c'est toujours très important arriver dans un endroit et comprendre comment chaque film se construit à partir de ses regards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses regards... c'est pas travailler pour donner l'impression de quelque chose qui n'existe pas, mais c'est vraiment quelque chose qui vient du corps, et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, c'est spontané, et que c'est quelque chose que, des fois, ça arrive, mais en même temps, avoir un respect pour la caméra, et quand je dis pour la caméra, je dis le geste cinéma qui vient aussi du son, bien sûr, mais avoir ce respect et penser le cinéma comme si ça soit quelque chose vraiment sérieux, mais en même temps avec l'humour. Et je pense que dans le film, on voit que même le geste cinématographique a de l'humour, qui a tout à fait à voir avec le sujet, parce que eux-mêmes ils sont très ironiques. Et c'est pour ça que des fois on a des zoom in, zoom out.
Pour on est comme chez Robert Altman, hein, vous filmez un groupe et puis de temps en temps il y a un zoom qui isole un personnage dans le groupe. Alors précisons tout de suite que les personnages que vous filmez, ce sont les habitants de ce village et ceux qui ont mené et qui mènent encore la lutte contre cette mine. Sauf que vous auriez pu faire un documentaire et ce n'est pas réellement un documentaire. Vous leur faites rejouer ce qu'ils ont fait auparavant. Pourquoi ce choix? Rejouer ce qu'ils ont fait ou auraient pu faire ou voudraient faire?
Oui, voudraient faire. Parce que, en vrai, c'est une lutte de bourreaux. Et ça ne m'intéresse pas. Des emails, des lettres, des papiers.
Alors, de bureaux, hein, précisons. Pas de bourreaux, mais
pardon,
de bureaux.
Des bureaux. Oui, pardon.
Enfin, contre des bourreaux, peut-être.
Non, mais. Et après, c'était vraiment l'idée de faire jouer. Parce que ça vient aussi d'une espèce d'état moral, parce que des fois on arrivait là-bas et il était vraiment démoralisé à cause des nouvelles et des travaux qui avançaient sur la prospection de la mine, et c'était aussi une façon de profiter pendant le tournage, et je me suis rendu compte qu'il s'amusait beaucoup plus à faire un western ou à faire un western, que j'ai dit un peu que c'est un western musical, qu'on était en train aussi d'enregistrer des musiques qu'on voit dans les films. Et ça se comprend aussi, les dispositifs. Et c'était vraiment le film, la façon de tourner au service de la lutte et de l'état moral de gens. Et on a beaucoup s'adapté. Et c'est à partir de ça, quand j'ai compris ça, qu'on a commencé à faire cette construction western, un peu musicale, et la construction aussi des personnages. C'était un peu comme ça qu'on a adapté l'histoire, et on a écrit aussi le dialogue, des fois ensemble. J'ai compris aussi les horaires des gens, parce que bien sûr que c'était pas un tournage de 10 heures, et ils n'étaient pas tout le temps disponibles.
Ce sont des gens qui travaillent, il y a des travaux à faire à la ferme, dans les champs, il faut s'occuper des chevaux, il faut s'occuper des ruches, donc ce ne sont pas des gens qui peuvent tout arrêter pour le cinéma.
Oui, oui. Mais je pense que cette idée de respecter aussi les horaires des gens, ça devient quelque chose d'intéressant pour le film, parce que ça change beaucoup la forme du film. Ça veut dire que des fois, j'avais même pas beaucoup de temps pour organiser une scène et tout à fait une séquence, et je faisais 3-4 plans dans un seul plan. Ça veut dire, je sais pas, un panneau, un zoom, et après un contre-zoom, un autre panneau, des trucs comme ça. Et je crois que c'est aussi ça qui a fait que j'ai adapté, et j'ai compris vraiment dans le premier moment de tournage, qu'on était en train de un peu faire cette genre de forme, et y aller aussi dans le genre western, et utiliser aussi cette possibilité comme quelque chose d'important pour raconter l'histoire et pour avancer narrativement.
Quando é que acaba todo este desassossego, esta angústia, este medo, esta vida em sobressalto? Nervos em franja, tenho mau pressentimento, a roer-me cá por dentro, a pôr-me de luto à alma. Mas nós podemos virar a sorte do jogo. Oh, e oh, ai. E a voz do povo é a vontade de Deus. Cantai, não passarão, não passarão, não passarão, não passarão.
Ça ressemble à un slogan espagnol qu'on connaît, « No pasarán, ils ne passeront pas ». C'est un certain Carlos Libo qu'on entend chanter sur à l'image des camions de la compagnie minière qui grimpent la route de montagne. Alors, il est éleveur de chevaux, Carlos Libo, c'est lui qu'on a vu au début du film. Il est aussi producteur de miel, il est encore auteur, compositeur, interprète de ses chansons militantes. Et c'est un film très chanté, vous l'avez dit, Paolo Carnero, presque un film folk. On n'est pas loin d'un Woody Guthrie, qui utilisait sa guitare comme une arme politique. Quelle est la fonction de ces chansons dans le film, qui sont à la fois extra-diégétiques, c'est-à-dire c'est la bande-son du film, mais aussi diégétiques, c'est-à-dire qu'on voit régulièrement Carlos Libo avec sa guitare, et puis parfois les villageois autour de lui.
Bon, pour moi, c'est très important de penser que pour que ça devienne... extra-diégétique. C'est pour ça qu'au milieu du film, je montre Carlos, parce que je pense que c'est quelque chose qui vient aussi du cinéma portugais. Et c'est très important faire cette remarque. Et après, les chansons, on a compris que dans un moment, que Carlos, il était très intéressé à la littérature. Il avait tout le temps des livres de Miguel Torga. Miguel Torga, c'est un écrivain qui a écrit beaucoup sur cette région-là, là, au nord. Et quand j'ai compris ça, parce qu'il jouait de la guitare, bien sûr, que j'ai compris ça, j'ai lui parlé d'essayer de faire quelque chose, une musique ou quelque chose qui était autour de la lutte, pour vraiment aider à cette idée de comment on peut diffuser ce qui se passe ici. Il faut trouver un dispositif plus populaire, parce qu'un film, ça prend du temps, c'est pas immédiat. Et on a commencé à construire les musiques avec lui. Lui, il écrivait tellement bien, il avait beaucoup des idées, il s'était vraiment attaché aussi à la Révolution portugaise. Il avait toute cette référence, José Mario Branco, Zeca Afonso, etc. Et il me disait, ouais Paul, on peut faire des musiques de lutte. Et à partir de ces moments, on a commencé à enregistrer des musiques et on a compris que vraiment, comme il était déjà un peu le visage du film, parce qu'il était là tout le temps avec les chevaux, j'ai compris aussi cette relation entre lui et les animaux et il n'y avait pas de doute d'avancer et travailler la musique pour quelque chose comme dispositif de film et aussi pour un peu enlever cette idée du documentaire, du réel. Bien sûr que qu'il y a des choses qui sont réelles, mais je pense que pour arriver vraiment aux sentiments et vraiment aux choses qu'il pensait à propos de la lutte, qui ont pensé à propos de la lutte, les gens de là-bas, il faudrait vraiment rentrer dans la fiction et construire tout un imaginaire qui avait aussi de la musique, et cette musique est devenue vraiment quelque chose de très important pour la lutte. Au jour d'aujourd'hui, il est très connu, et ses musiques sont toujours jouées partout quand il y a des manifestations, qu'à cause des mines, mais aussi d'autres projets qu'ils disent que ce sont quelque chose connecté avec l'idée d'un développement écologique vert.
Mais c'est vrai que le film prend une dimension presque mythologique par moment. Enfin, il y a quelque chose du conte et du fantastique aussi. Et le fantastique tient au fait que, et c'est dit à la fin, nous n'avons pas filmé l'ennemi. Donc ça reste une présence inquiétante, fantomatique, presque bestiale par moment. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix ?
Oui, ces choix, ça vient du début, même quand j'ai commencé parce que je suis allé là-bas et pour filmer des vidéos pour les réseaux sociaux, pour un peu diffuser la lutte, pour pouvoir aider de ma forme. Et c'était quelque chose que j'ai choisi au début, parce que je trouve que pour avoir la forme du film et pour avoir vraiment quelque chose précis, il faut trouver des frontières, il faut avoir des frontières. C'est pas possible tout filmer et tout enregistrer. Il faut avoir des frontières. Et c'est avec des frontières qu'il faut travailler, aussi comme une forme de travail. Et ça, c'était un choix depuis le début. Et c'est aussi une représentation de la réalité, parce qu'on n'arrive jamais à toucher le grand, on le voit jamais. On parle de haut, on le voit dans les annonces, on le voit dans le dépliant, le journal et le prospectus, oui. Mais vraiment, le CEO de l'entreprise, on le voit jamais. Mais quand je dis le CEO de cette entreprise, je parle d'autre chose. Je peux parler d'un gouvernement, d'un premier ministre, d'un président. Et c'est cette idée aussi, cette idée d'impotence, non?
Impuissance.
Impuissance, de manque de confrontation. Et aussi, je crois, je sais pas si, j'espère que les gens voient ça dans le film, que ces gestes, ça se voit aussi dans la mise en scène et dans le choix de, par exemple, la dernière séquence du film, c'est aussi pour dire ça. On le voit jamais, mais on le fait face et je fais face au cinéma et j'impose mon cinéma. J'ai fait un travelling de 3 minutes pour dire, moi je crois au cinéma dans le grand écran pour avoir un saut travaillé, rien à voir avec une télévision. Et pour vraiment continuer avec cette idée de rêve, non? C'est quoi le cinéma? Le cinéma, c'est une expérience en salle, communautaire, avec des gens qui, à la fin, quand ils sortent de la salle, ils peuvent discuter, disputer et diffuser une idée critique qui a aussi à voir avec le sujet du film, mais avec la forme, avec ce que c'est le cinéma. C'est pour ça qu'on continue à filmer. Sinon, ça fait rien. C'est pour ça, c'est avec ces rêves de cinéma, de salles de cinéma.
Merci Paolo Carneiro. Covas do Barroso, chronique d'une lutte collective, c'est sorti en salle ce mercredi et on salue les habitants et habitantes du village et on leur souhaite force et courage pour les luttes à venir. Vous écoutez France Culture Plan Large, restez avec nous Paolo Carneiro. On traverse la frontière avec l'Espagne, il y a quelques vols d'oiseaux du village où vous avez tourné pour entrer en tauromachie avec Albert Serra et son après-midi de solitude, Tardes de Soledad, au-delà des polémiques qui entourent et ont parfois fait interdire dans certaines régions de son pays d'origine, ce sanglant spectacle qu'est la corrida, le cinéaste catalan en fait comme un peintre le motif d'une confrontation belle et tragique, belle parce que tragique sans doute, entre l'homme et l'animal et entre ce qu'il y a de l'un dans l'autre et réciproquement. Il prolonge par là certains de ses thèmes de prédilection depuis Honor de Cavalleria jusqu'à Pacifiction, en passant par Histoire de ma mort et la mort de Louis XIV qui explorait déjà la mince frontière entre le physique et le transcendant, le prosaïque et le sublime et la vie et la mort. Nous avons rencontré Albert Serra, c'était sur les fauteuils rouge sang d'un cinéma parisien.
Te probaste tanto rato queriéndote cazar.
Ya no se puede torear más puro un toro de.
Esto que han hecho hoy, que no está al alcance de nadie actualmente, pues causa envidia a los mediocres y por eso te niegan algunos.
Pensarte, sí, porque no me ha pasado nada.
Bonjour Albert Serra.
Bonjour.
C'est votre premier documentaire, je crois, que ce Tardes de Soledad. Est-ce que vous l'avez abordé de la même façon qu'un film de fiction, sachant que votre manière de filmer avait déjà beaucoup à voir, peut-être, avec une manière d'appréhender le réel qui n'est pas très loin du documentaire?
Oui, c'est exactement ça, vous avez tout bien compris. Moi, j'ai travaillé toujours avec trois caméras, là, parfois, dans l'arène, il n'y a quatre. Mais bon, ce sont mes opérateurs, ce ne sont pas des opérateurs spécialisés. On utilise les caméras, malgré tout, qu'on utilisait toujours, par exemple, dans Pacifiction, avec les presque, parfois, on changeait l'objectif, mais bon, le système était assez proche. Moi, je ne parle pas beaucoup aux acteurs pendant les films fiction, et là, c'était encore moins, parce que, évidemment, les situations de Torero sont graves, et ne permettaient pas qu'on lui parlait, c'est-à-dire, ils nous permettaient de rentrer dans la chambre, son assistant faisait un geste, nous on rentrait, et quand l'assistant nous disait de partir, nous on partait, il n'y avait que deux personnes, deux caméras, moi, et même moi, parfois, j'étais dans l'avant-chambre ou la chambre à côté, et on ne se disait rien. Aussi, dans la voiture, il n'y avait même pas d'opérateur, c'était une caméra fixe parce qu'il n'y avait pas d'espace, alors encore zéro communication. Et dans l'arène, évidemment, zéro communication parce qu'ils sont en train de faire son travail et ils sont très occupés. Et non, c'était impossible. Alors, on a compris que ce qu'on faisait avant, c'était exactement la même chose, légèrement, moins radicalement, mais très légèrement. Pour le reste, tout est le même.
Vous avez un intérêt ancien pour la corrida, mais l'originalité, c'est que ça n'est pas passé tellement par la fréquentation des arènes, mais par beaucoup de lectures.
C'est ça.
En quoi ces lectures ont influé sur votre manière de filmer?
Écoute, c'est une fascination pour le cœur de la corrida, c'est-à-dire ces combats très violents, pour les côtés allégoriques, pourquoi on fait ça, ça représente quoi on fait dans notre imaginaire, et aussi évidemment de toutes les réverbérations philosophiques, même en France, non, vous avez des très grands écrivains qui se sont intéressés à la corrida pour cette côté sombre, obscur, mystérieux, non, cette mystère qu'il y a derrière, soit Michel Leary, soit Georges Bataille, soit évidemment ils vont encore plus loin que les films, une association assez forte de la mort, le sexe, je ne sais pas, non. Et là, j'étais toujours fasciné parce que moi, j'ai connu ça depuis que j'étais petit. Mon père est allé à la corrida et moi, je suis allé quelques fois. Après, je ne suis jamais rentré dans un Olympe pendant 35 ans et tout ça. Et à la fin, quand on parlait de faire un documentaire, parce qu'en fait, le documentaire, c'est une espèce de commande, pas le sujet. Mais il y avait une université qui produit, ou commence à produire, non, initier des projets documentaires dans un master de documentaire créatif. Ils m'ont dit, il faut que tu travailles avec nous, que tu fais quelque chose. Je disais toujours, j'ai pas de sujet, parce qu'il n'y avait rien dans la réalité qui m'intéressait. Et finalement, un jour, je me suis dit, wow, il y a ce sujet-là, c'est à côté, je connais un peu, parce que c'est du pays, c'est quelque chose qui est dans notre quotidien, dans notre imaginaire. Et il y a quelque chose à faire là. Et comme on ne peut pas le faire en fiction, parce que c'est impossible de simuler ou de représenter tout ça, on va le faire en documentaire pour curiosité, pour être vraiment au cœur de l'action, pour penser si on aurait la possibilité d'avoir un accès pour voir des choses qu'on n'a jamais vues. C'est ce qui est l'idée aussi de mes films précédents, non, de mettre la caméra qui va nous dévoiler, dès le moment où les acteurs commencent à perdre le contrôle de son propre image, qui va nous dévoiler des choses inconnues, invisibles. Et là, c'était comme ça, mais avec aussi l'avantage que, du point de vue plastique, on était certain qu'il y aurait déjà des images de l'horreur, mais en même temps, du point de vue visuel, intéressante, plastiquement, d'une certaine façon, fascinante. Tout était dans les bons lieux pour essayer qu'est-ce que ça va de nous donner. Ah, finalement, j'étais chanceux que j'ai fait un bon film, qui était l'objectif que j'avais depuis le début. Parce que, évidemment, le film, comme vous avez vu, il y a une honnêteté totale. Même qu'il peut déranger, tu sais, en fait, il a dérangé un peu à les propres protagonistes du film. Mais de ce que cette honnêteté est garantie, dans le sens qu'il y a tous les éléments qui ont été captés et imprimés dans les images, à partir d'ici, il y a un arbitraire artistique pour faire mon propre œuvre d'art autonome, qui est un film qui, par hasard et malgré tout, c'est assez cohérent avec ce que j'ai fait avant avec la fiction, au niveau des sujets surtout, c'est les pouvoirs, la hiérarchie, les atmosphères très contrastées, ici les grotesques avec les transcendance de certains moments, l'engagement avec ça, la banalité de certaines phrases, de certaines bêtises, mais c'est pas des atmosphères qu'on n'a jamais vues dans les cinémas, je pense, à ce niveau-là.
Mais qui pourtant accomplit un projet théorique du cinéma. On pourrait remonter à Bazin, à la question du montage interdit, de la coexistence de l'homme et de l'animal, ou au vieux fantasme ontologique du cinéma, justement en filmant une surface, de pouvoir accéder à quelque chose de supplémentaire. Cette dimension théorique, vous l'aviez en tête quand vous filmiez ?
Je l'avais en tête, mais c'est vrai que peut-être ça a été avec la pratique que je me suis intéressé encore plus, non ? Et là, l'idée de filmer la mort, non ? De filmer vraiment, par exemple, les transits, les moments où vraiment, d'une façon graphique, la vie s'en va, la vie abandonne le taureau, l'animal, et tu vois pénétrer lentement, c'est la mort. Là, je pense qu'il y a des images assez étonnantes dans les films. C'était perturbateur, vraiment, pour les opérateurs caméra. Mais en même temps, tu sais, on était fascinés parce qu'il y avait évidemment une mélancolie très profonde, non ? Et le film s'appelle Tardes de Soledad parce que, évidemment, la solitude du torero, parce que c'est le matador, c'est lui qui vraiment prend tous les risques presque. Mais aussi la solitude du torero, cette espèce de côté prémonitoire. Lui, il est le seul qui ne sait pas qu'il va mourir. Alors, il y a une espèce de tristesse depuis le début. C'est pour ça qu'on tourne, non, et qu'on capte beaucoup de moments le regard du torero en train de regarder la caméra. Les yeux du torero, les yeux du torero. C'est une espèce de dualité qui est très, comment dire, marquée dans les films. Et aussi la solitude de ce groupe, malgré tout, ils habitent dans une boule. Et les films encore soulignent un peu ça parce qu'on a choisi que la chambre, la voiture et l'arène. Rien d'autre. Et là, c'est vraiment une boule d'hommes, comment dire, d'une si, avec des petits contenus humains certains, au niveau de fraternité, de solidarité dans les moments difficiles de Torero. Mais bon, c'est d'une solitude. En plus, dans la société, on dit aujourd'hui, les sociétés, ça a l'air que va dans une direction opposée à les valeurs de la corrida. Alors, c'est encore un monde de solitude, tout ce qui se passe là. C'est cinématographique, tu sais, j'ai tourné Le Crépuscle beaucoup de fois. Et c'est cinématographique en soi, les moments crépusculaires.
Toro, hey. Voilà. Toro. Toro. Toro, hey. Hey. Toro. Hey. Quieto.
Vous l'organisez, cette solitude, par le cadre. Vous êtes toujours très près de ce qui se passe entre le torero et le taureau. Et le public est complètement évacué. On l'entend. C'est comme une rumeur. On s'inquiète de ses réactions, de son jugement, de sa critique. Est-ce qu'on va lui accorder les oreilles ou pas, par exemple. Mais on ne le voit jamais.
Ça, c'est une idée depuis presque le début. C'est très difficile de tourner ces plans serrés. On capte des moments, des sensations qu'on n'a jamais vu. Et après, on va perdre notre temps en train de montrer le public quelqu'un qui est distrait, en train de parler avec les voisins, mal habillé, je ne sais pas quoi. Non, on a passé trop de temps pour filmer ça, pour après perdre notre thème avec l'autre. Et avec l'idée conceptuelle, ça c'est clair, que c'est le public du cinéma qui doit devenir le public du film. Et il y avait déjà depuis le début, parce que nous on est allés pour préparer le film, non, voir un peu où on plaçait les caméras et tout ça, on assistait des corridas, et on se disait, non, là c'est tendu. Comme spectateur, tu sais, tu sens beaucoup de choses, même si tu es dans l'arène très très haut, que tu vois presque rien, mais il y a une espèce de rumeur, il y a cette espèce de folie et de tension physique dans ton propre corps en tant que spectateur, que quand tu voyais dans la télé tout ça, on les perdait complètement, ça. Et on dit, il faut trouver des moyens équivalents pour créer des sensations, dans les mêmes genres de sensations dans le public cinéma. Et c'était clair qu'avec la mise en scène traditionnelle des captations live, ça donnait rien. Et en plus, ça ne rendait pas justice à 80% de ce qui se passe dans l'arène. Alors, nous, on s'est dit, bon, on va trouver. Ça a été un processus d'apprentissage progressif. Mais on comprenait que dans les plans serrés, même s'il y a un certain degré d'abstraction, même si aussi les toreros se plaignaient qu'on voyait un peu moins son art. Nous, on ne fait pas un film pour les aficionados qui vont voir les détails de la performance d'un torero comparé à un autre. Non, on fait un film pour les spectateurs cinéma et on sait, moi je sais que ce sujet c'est controversé, mais j'aimerais qu'il soit aussi des personnes qui sont même contre la corrida qui vont regarder les films parce que il y a une telle puissance cinématographique dans ces images que c'est difficile de trouver un sujet pour un documentaire qui peut donner cette expérience cinéma. Et c'était la seule raison pour laquelle j'ai décidé de faire le film. J'aimais la fantaisie, tu sais, j'aimais la direction d'acteur. Quand un acteur, il est artificiel, le maximum d'artificiel, et en même temps, il est très organique. Il te fait croire des choses impossibles à croire, non? Cas de magie, mais c'est fiction. C'est hyper réaliste d'un côté et complètement absurde de l'autre. Mais ici, j'ai trouvé ça d'une façon naturelle. C'est le miracle de ce qu'on a fait, nous. C'est-à-dire de faire un bon film avec ça.
Précisément, vous n'êtes pas là pour prendre parti d'un côté ou de l'autre. Vous donnez matière à penser, et ça se passe beaucoup par un montage que je trouve assez dialectique. C'est-à-dire que vous êtes parfois dans le drame et parfois dans la dérision. Vous êtes dans le sublime et parfois dans le terre-à-terre. Vous avez beaucoup travaillé à doser ça.
L'équilibre des éléments, ça c'était important. Parce que c'est ça qui te donne après la légitimité pour aller dans l'arbitraire. Et comme on a capté tout ça, évidemment, la violence, vous avez vu qu'il y est très bien représenté. Les côtés de l'engagement, les côtés un peu moral aussi, non, de lui, c'est là aussi, les valeurs peut-être. Il y a un moment, certains moments, on peut sentir que ça fait partie importante de sa peur aussi. C'est pas les côtés humains, pourquoi pas, en groupe, cette situation difficile, fraternité entre eux, solidarité, les côtés plastiques, les baroques, les côtés masculins, féminins, homoérotiques. C'est un élément qui est très important parce que ça fait partie intégrale de l'esthétique de la corrida. Tout ça, on l'a capté. On dit, on va l'équilibrer. Mais pour équilibrer, il faut faire des choix. Moi, j'avais 800 heures de rush avec ça. J'ai dit, il faut mettre la mort d'un taureau en plein serré en fois, deux fois. J'en avais 12. Les moments d'anticlimax, les côtés rituels. Dans l'arène, on sent que c'est de la répétition, de la réitération. Un taureau après l'autre, codifié, répété. Moi, je voulais garder ça. Et les films, d'une certaine façon aussi, veulent faire sentir à les spectateurs la sensation de l'arène, de que tout est, c'est un rituel répété. Il y a un moment d'anticlimax, un moment où ça se passe rien, un moment où on attend la magie. Et après, il y a aussi un arbitraire absolu, qui c'est de certaines décisions en moi, des moments que j'aime, des images que j'adore. Parce que l'autre, c'est déjà, comme dire, établi d'une façon très honnête. L'honnêteté du film est hors question. Et à partir d'ici, oui, c'est mon arbitraire. C'est vraiment l'obsession de faire un bon film cinéma original, qui donne une perspective différente, avec des images qu'on n'a jamais vues, avec des sons, des conversations qu'on n'a jamais entendues, et que jamais, jamais, une écrivain, un seul cerveau de zéro pour réinventer. Parce que c'est une telle combinaison d'éléments imprévus, du grotesque, du vulgaire, qui est à côté des intuitions presque visionnaires au niveau de philosophique sur la vie et la mort. Non, et là, tout est à côté, mélangé. Parce qu'eux-mêmes, ils sont inconscients aussi, dans ces moments, de certaines valeurs visionnaires de certaines phrases, ou de la stupidité, ou de la bêtise, vulgarité presque intolérable, de certains d'autres. Quel créateur, quel écrivain pourrait écrire ça avec ce degré d'extrême à l'intérieur? Et bon, j'étais chanceux de pouvoir les tourner aussi. Les sons, non, on a les microphones qu'il avait dû chez Torero, lui ici, l'assistant, étaient cousus dans les costumes à l'intérieur. Et les sons, c'est le dialogue, évidemment, mais c'est aussi le souffle du taureau, c'est aussi les hésitations les plus intimes du matador, c'est tout. Il y a tout un matériel qui est étonnant, qui nous ont arrivé à donner accès à tout ça. Et j'ai essayé de les correspondre en faisant le meilleur film artistique possible. Peut-être s'il y a plein de choses qu'ils ne vont pas aimer, ou qu'ils ont déjà exprimées, ou surtout lui, des doutes sur certains aspects du film, mais je pense que dans le long terme, c'est le meilleur cadeau qu'on peut faire. C'est un film qui va rester. Parfois, il y a des choses compréhensibles. Hein. Il disait, il manque de triomphe dans les films, non? Parce que lui, il est le numéro un, et par hasard, on a tourné des corridas très difficiles, où le triomphe n'était pas évident, n'était pas là.
Précisément, si André...
C'est ça qui fait original les films aussi, parce que ça échappe aux clichés, tu sais, de triomphe et tout ça. Et là, non, là, c'est vraiment la vérité de la corrida dans son noyau le plus essentiel. Les combats, l'engagement, les difficultés, etc. Et l'expression artistique, finalement, il est là, mais il est difficile de la développer pour les toreros.
Mais peut-être, précisément, si Andrés Rocarré, la première fois qu'il s'est vu dans votre film, ouais, n'a pas aimé, c'est que c'est votre regard, et ce n'est pas celui qu'il construit pour un public. C'est-à-dire que vous cassez les règles du spectacle, et il s'est vu comme il ne s'est jamais vu, notamment dans les moments où il s'oublie, et où il a ce regard quasiment animal, et cette bouche comme ça, tendue vers le taureau.
C'est ça, c'est exactement ça, parce que... Et c'est très difficile de garder le contrôle de ton image dans ces circonstances, parce qu'elles sont très difficiles, parce qu'il y a les dangers de non, la vie, la mort, vraiment perdre sa vie, c'est juste sa vie, clairement. Alors, tu ne peux pas offrir ton meilleur côté à la caméra, non. Et c'est ça que les films dévoilent des sensations ambivalentes, ambiguës, mais intéressantes du point de vue cinématographique. Parce que c'est le pouvoir de l'image de garder toute cette complexité, au moins dans la façon que je travaille le montage, que je travaille la captation, de garder toute cette complexité, toute cette ambivalence, non? Toi, tu regardes une image et tu ne sais jamais qu'est-ce qu'il pense. Tu ne sais jamais est-ce qu'il est méchant, est-ce qu'il est arrogant, est-ce qu'il est timide. Parfois, tu sais, le cinéma, c'est le pouvoir de vraiment tenir et garder les choses dans son ambiguïté visuelle essentielle. Et si tu ne les réduis pas, comme on fait souvent avec le cinéma, tu sais, avec des scénarios un peu infantiles ou un peu moralisants, non, dans le sens qu'il faut te faire comprendre ça et ça. Et si on simplifie, on rend schématique quelque chose qui, dans la réalité, est hyper complexe, je pense que le spectacle cinéma, si on garde cette complexité-là, parce qu'il y a de l'espace, vous savez que mes films sont un peu, non, il y a une certaine utilisation du temps, même dans ce film, je pense que c'est encore plus, plus important parce qu'il y a des rituels, c'est répétitif. Alors, il n'y a plus d'espace pour penser, pour sentir, pour, tu sais, pour se poser des questions morales, même spirituelles. Pourquoi pas d'avoir le plaisir du le pur spectacle plastique. Ici, truffer, non, traversé pour des images désagréables. Ce qui pose aussi cette question sur la beauté de l'horreur, la fascination pour l'horreur. Il y a beaucoup de questions, là.
Merci beaucoup, Albert Serrin.
Merci.
Tardes de Soledad d'Albert Serra est en salle lui aussi depuis mercredi pour prolonger cet entretien. Sachez que le cinéaste discutera autour de son film avec le peintre espagnol Miquel Barceló. Ce sera le vendredi 4 avril à 20h au cinéma MK de Beaubourg à Paris après la projection du film. Vous écoutez France Culture Plan Large et on ouvre à présent le journal du cinéma avec, une fois n'est pas coutume, une seule autre sortie de la semaine et pas seulement parce qu'on reste avec lui en terre latine, brésilienne en l'occurrence, dans un territoire lui aussi très délimité, l'île de Marajó, au cœur de la forêt amazonienne. Il vit là avec ses parents, ses frères et sa petite sœur, une adolescente de 13 ans, Thiélé. Comme toutes les filles de son âge, comme sa grande sœur qui est partie, elle rêve d'émancipation, mais la puberté, c'est aussi le moment où elle découvre le monde dans lequel elle vit, un monde violent et dominateur, où chez elle, comme sur les barges qui passent sur le fleuve, les jeunes filles sont des proies. La cinéaste brésilienne Mariana Brennan vient du documentaire. Elle a enquêté pendant 10 ans sur les violences sexuelles dans l'état reculé du Pará et en a tiré ce premier film de fiction, Manas, qui signifie sœur en brésilien. Et c'est bien de sororité qu'il s'agit ici, aussi bien par son choix pour ne pas faire revivre aux jeunes femmes avec lesquelles elle s'est entretenue les abus subis, de faire une fiction plutôt qu'un documentaire, aussi bien aussi que par le choix de laisser toujours les violences, là encore, hors champ ou dans l'ellipse, et aussi de protéger en permanence son actrice principale, la magnétique Jamily Correa. Extraordinaire découverte de ce beau et très sensoriel film qu'est Manas. Mariana Brennan.
Isso que é
conquistando o impossível
pela fé.
Pela fé.
Você lembra da perninha? Ó, atrasado, viu?
As a woman, we are used to sexualize.
En tant que femme, on est habitué à la sexualisation, au male gaze dans notre représentation. Avoir traité notre corps comme des objets, objectiver notre corps. Et pour moi, en tant que réalisatrice qui raconte une histoire sur les violences sexuelles, c'était une formidable occasion de le faire de la bonne façon, en respectant notre corps.
Et
quand j'ai commencé à réfléchir à ce film et à comment j'allais représenter cette fille, il était très important que l'interprète du rôle principal ait 13 ans, le même âge que le personnage, qui est un enfant. Donc j'étais très attentive à ça, à regarder son corps avec respect, ce qui est, je pense, la façon dont tout le monde devrait le faire.
Est-ce pour les mêmes raisons que vous avez choisi de ne jamais montrer la violence, de ne pas en faire un spectacle ?
Tout à fait. Je ne voulais pas faire de la violence un spectacle. Un des défis de ce film, c'était comment raconter une histoire si violente sans montrer de violence. Et la façon que j'ai trouvée, c'était de faire ressentir la violence par le spectateur. Et toute la construction narrative et cinématographique du film consiste à vous la faire ressentir par l'utilisation d'ellipses, par le son, très sensoriel. On n'a jamais écrit dans le scénario des scènes qui montraient de la violence explicite. Et c'était pour moi un autre principe pendant que je faisais le film. Parce que je pense qu'en montrant la violence, j'aurais manqué de respect à cette femme. Il aurait fallu que je fasse jouer à mon actrice, cet enfant de 13 ans, un acte de violence. Et filmer cette violence, ce serait une façon de dire « c'est normal ». La violence envers les femmes, et en particulier les enfants, ne devrait pas exister. Alors on ne devrait pas la voir non plus. Et une autre chose qui était très importante pour moi, c'est que le travail avec les enfants ne soit pas violent. J'étais très soucieuse de préserver leur santé mentale. Donc je ne leur ai jamais montré le scénario. Elle n'a jamais lu le scénario. Elle savait de quoi il était question dans le film. On parlait du sens des scènes. On a fait un mois et demi de préparation, pendant lesquels elle vivait dans la maison, ensemble, comme une famille, et on faisait des exercices. Je travaillais en particulier sur la symbolique. On expliquait que ce qui lui arrivait n'était pas bien. On travaillait avec ses souvenirs, mais on n'essayait pas de faire remonter des abus. Ce qui était très important pour moi, avec les trois filles qui ont travaillé dans le film, c'est que je n'aurais jamais pu travailler avec un enfant qui aurait souffert d'abus, parce que ça aurait pu déclencher un traumatisme ou quelque chose de psychologiquement profond. Alors on a travaillé par des métaphores. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que Jamili, l'actrice principale, a vu le film en post-production, au mixage, et pour la première fois, c'est là qu'elle a compris que la scène de chasse était la scène de maltraitance. Elle ne le savait pas. Et c'est là que j'ai compris que ça avait fonctionné, cette méthode. Cette façon d'essayer de prendre soin d'elle avait vraiment marché. Et pour moi, c'était très beau. Et bien sûr, elle est une force de la nature. C'est très rare, même pour un acteur qui a beaucoup d'expérience, d'avoir ça. Cette profondeur, cette capacité de penser, vous la regardez, et elle a ce silence, comme si vous pouviez lire à travers son regard. Je crois que c'est quelque chose de très spécial chez elle.
Tantos anos de fazer tantos planos de um futuro pra nós. Depois de tantos desenganos, nós nos abandonamos como tantos casais. Quero que você seja feliz.
Manas est lui aussi sorti en salle ce mercredi. Merci à Pascaline Bonnet d'avoir prêté sa voix à Mariana Brennand. Pour explorer encore quelques autres chemins de traverse du cinéma brésilien contemporain, la version française de la Mostra de Cinéma de Tiradentes, le plus grand événement du cinéma brésilien, c'est la semaine prochaine, du 3 au 7 avril, au cinéma L'Écran de Saint-Denis et au Méliès de Montreuil, ainsi qu'à la Cinémathèque française. Pour rester en sororité combative, le cinéma de la cinéaste Sarah Maldoror, disparue il y a 5 ans, toujours aussi brûlant et intense, c'est du 3 au 7 avril au Centre Pompidou à Paris, dans le cadre de l'exposition Paris Noir, exposition d'ailleurs qui en diffuse des extraits, mais là vous pourrez les voir en entier, ces films. En scène Saint-Denis et à Paris, dans plusieurs salles, c'est encore le panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient, avec en invité d'honneur le cinéaste palestinien Rachid Macharaoui. Et puis enfin, pour explorer les rapports entre cinéma et bande dessinée, et ce que la seconde fait du premier, c'est à Bastia, sur les mêmes dates à peu près, avec une exposition collective Bande dessinée, si vous voyez le jeu de mots, et les œuvres de Nicolas Badou, Aude Bertrand, Cathalie Boquet, Guy Delisle, Philippe Dupuis, Alex Inker, probablement bientôt dans Plan Large, Alex Inker pour son extraordinaire crimi autour du tournage par Fritz Lang de M le Maudit, et encore Julien Magnani. BD à Bastia, 32e édition, c'est du 3 au 6 avril. Et puis enfin, étudiantes, étudiants qui nous écoutez, vous avez jusqu'à demain pour candidater au jury des prix cinéma des étudiants France Culture 2025. Ne tardez pas. Après, ce sera évidemment trop tard. Ceci annoncé, il est temps d'avouer aux médecins des âmes ce qui nous tourmente.
All right, what seems to be the trouble?
Well, it's difficult to show you the symptoms at the moment because it comes and it goes.
Oh.
It comes and it goes.
Yes, it's so unfortunate. It's always the same whenever I see a doctor. When I come, it goes. And when I go, it comes.
Mrs. Baker, whatever comes and whatever goes, there's no denying it worries you a lot. So please drop all your inhibitions, release your inner self, and speak freely. What comes and what goes?
Hiccups.
Hiccups?
Yes. Whenever I get nervous or irritated, I get the hiccups. It's rather unpleasant and sometimes very uncomfortable.
Well, naturally, it's a little early to make any diagnosis, but you're apparently getting these hiccups because of a nervous condition. Let's find out what causes that condition.
Sounds plausible.
Thank you. Would you mind stepping into the next room?
Une très élégante jeune femme de l'Upper East Side new-yorkais qui, après avoir quelque peu louvoyé sur ses symptômes, ça va, ça vient, dit-elle, quand je viens chez le docteur, ça s'en va, et quand je m'en vais, ça revient, finit par avouer avec gêne à son psychanalyste qu'elle a le OK quand elle est contrariée. Ça pourrait être le début d'un film de Woody Allen, par exemple. Eh bien non, c'est celui, en 1941, d'Illusion perdue, d'Ernst Lubitsch, That Uncertain Feeling, dans son titre original. Un film... un rien perdu, effectivement, chronologiquement, du moins, entre deux chefs-d'œuvre de son auteur, The Shop Around the Corner et To Be or Not To Be, c'est pas rien, mais qui mérite de s'y arrêter. Charlotte Garçon, quel est ce sentiment incertain qui nous étreint devant cette assez retorse comédie du remariage, Charlotte ?
Oui, film étrange, en effet, Antoine, par ses qualités autant que par ses défauts. C'est aussi cela, la fameuse politique des auteurs. Se pencher sur les films mineurs d'un cinéaste que l'on adore permet d'explorer à froid, sans crier à chaque fois au chef-d'œuvre, le moteur de sa mécanique comique. Ici, dans un film modeste, quasiment à huis clos, tiré d'une pièce française de Victorien Sardou et Émile Denajac, Divorçons, et déjà à l'origine de Kiss Me Again, un muet de Lubitsch de 1925, hélas perdu. Au moment où il prend son élan pour un film aussi subversif que To Be or Not To Be, dans lequel une petite troupe d'acteurs polonais monte pour une fois sur la grande scène de l'histoire en train de se faire, Lubitsch s'intéresse donc en 1940 à un couple modèle assuré jusqu'à l'ennui, puisque monsieur, joué par Melvin Douglas, le parisien de Ninotchka, est courtier en assurance, un couple donc présenté dans la presse mondaine comme « The Happy Bakers ». Mais dans la salle d'attente du psychanalyste, un autre patient ironise car il a reconnu Madame Baker, ou plutôt comme il l'appelle, Madame Happy Baker. Que vient-elle donc faire sur le divan si le bonheur n'a pas d'histoire ? Ce dragueur attirant, un pianiste qui pose en artiste torturé, entraîne la jeune Madame Baker dans une galerie d'art où est exposé son portrait. Un morceau de colonne grecque, un volcan en éruption, une pendule et un fragment de partition. Animal, minéral ou végétal, il faut avoir les codes pour comprendre que cet assemblage à la Giorgio De Chirico représente effectivement un être humain. Alors c'est pas tant en tant que satire de l'art moderne que ce portrait d'un homme salement déconstruit m'intéresse, mais parce qu'il est la marque d'un déplacement majeur dans le cinéma de Lubitsch. L'appétit sexuel de ces héroïnes du muet et leur propension à tout saccager sur leur passage s'est transformé dans un Hollywood soumis au code d'autocensure en une série de signes à décrypter. Comme les lignes bizarroïdes du portrait du pianiste, la comédie sophistiquée implique un réglage. Une fois privés de l'énergie mouvementée du burlesque, c'est désormais aux détails que nous devons prêter attention. Ce film en chambre, et en antichambre même, met l'accent sur des éléments infimes qu'il charge de sous-entendus, tandis qu'il taille sans état d'âme dans la trame narrative du remariage, qui n'a au fond jamais été le scénario favori de Lubitsch, ni son idéal de vie. Aussi, that uncertain feeling, ce sentiment incertain, n'est-il pas seulement celui de l'épouse déçue par la vie conjugale, mais celui du spectateur invité à sourire des allusions pas perdues et surtout à aiguiser son écoute. Dans le hoquet récurrent de Madame Baker, mais aussi dans les ronflements de son mari qui la dégoûte et les couics affectueux mais horripilants que celui-ci lui lâche en lui piquant le ventre, il nous faut entendre la résurgence du corps et plus précisément de la sexualité dans l'espace le plus policé qui soit, l'Amérique upper middle class que Lubitsch a délibérément peu filmé. Quel bruit fait un mariage heureux ? Demandait le philosophe Stanley Cavell, l'inventeur de cette expression comédie de remariage, mais lui pensait plutôt aux éclats de voix des scènes de ménage chez Cukor et Howard Hawks. Pour Lubitsch, la réponse à cette question, ce serait sa gargouille. C'est là où le Berlinois devenu américain rejoint l'Autrichien, mort un an avant le tournage d'Illusion perdue, Freud, bien sûr, intéressé comme lui aux symptômes qui agitent le corps des femmes. « I am marriage conscious », confie Madame Becker, qui se met à produire ces micro-séismes physiologiques que sont les éternuements, tout comme plus tard, la mère mutique du pharmacien de la folle ingénue se raclera la gorge pendant tout un dîner, ou comme la plombière sexy du même film fera glouglouter ses tuyaux. Ce qui est piquant dans la version lubitschienne de la vulgate psychanalytique qui souffle sur Hollywood dans les années 40, c'est qu'elle est le prolongement naturel de son propre régime de mise en scène. Elle porte au jour, comme le fait son cinéma depuis les années 10, une économie du désir. Celui-ci revient toujours par la fenêtre quand on le chasse par la porte. Et Dieu sait que des portes, il y en a beaucoup chez Lubitsch. Autrement dit, c'est à ces vases communicants que s'intéresse Illusion perdue, à ce que réprime un temps celle qui se définit chez son psy comme une femme parfaitement normale, à ce vase phallique qui trône dans son appartement mais qu'elle cache systématiquement et que son mari réérige non moins systématiquement. Alors, du vase au vase de nuit rangé dans le meuble de chevet, il n'y a qu'un pas. Or, Illusion perdue s'ouvre précisément sur une porte qui n'est pas n'importe quelle porte, vous vous souvenez, mais celle du Ladies' Lounge, autrement dit les toilettes pour dames, le seul endroit où l'homme n'a pas encore posé un pied ni jeté un regard, précise le carton d'ouverture du film. Le cabinet de toilette sera à nouveau une coulisse historique décisive par deux fois dans To Be or Not To Be, un lieu où se travestir peut permettre de jouer pour pouvoir jouer le rôle de sa vie et enfin entrer dans l'histoire. Alors c'est par le corps, c'est ok, c'est sursaut, les bruits incontrôlables de sa tuyauterie de chair et d'affect que ici le couple peut être sauvé dans toute sa modique quotidienneté et que l'humanité pendant la guerre tentera aussi de l'être.
Merci Charlotte Garçon. Illusion perdue d'Ernst Lubitsch en copie restaurée. C'est à voir sur grand écran depuis déjà 10 jours. Et puis, pour vous entendre parler encore un peu plus d'Ernst Lubitsch, vous discuterez avec Bernard Benoliel de To Be or Not To Be à la Cinémathèque française dans le cadre de la rétrospective Lubitsch. Ce sera le 12 avril à 14h30. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Anthony Thomasson et Ludovic Auger. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et réalisée par Anne-Laure Chanel.